Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce sixième épisode, il y aura Maniac Mansion, Solomon's Key, High School Kimengumi, Rockman de The Power Fighters, Ghostbusters, la suite du test d'Armful Park et la démo du groupe Sanity Interférence. Bienvenue sur Rétrovision. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour ce sixième épisode de Rétrovision, l'émission pour les bons vivants du rétro gaming qui se regarde installé bien tranquillement en prenant son temps. Et pour ouvrir le bal des pixels en deux dimensions, on reprend les bonnes vieilles habitudes avec un point and click et pas des moindres, puisque celui-ci est considéré comme le précurseur, l'inventeur même de ce genre, Maniac Mansion, de Lucasfilm Game, sorti à l'origine en 1987, mais c'est la version Deluxe datant de 2004 que nous avons choisi de vous présenter. Avant de commencer la partie, il vous faut choisir trois personnages parmi lesquels on retrouve Bernard Bernoulli, l'intellectuel de service, qui sera par la suite le héros principal de Day of the Tentacle. Les trois adolescents auront pour mission de retrouver Sandy, la copine du héros Dave, qui a été kidnappée par un docteur Maboule, portant le nom évocateur de Fred Edison. Selon le choix que vous aurez fait, le cours de l'histoire et la fin changera sensiblement à chaque partie. En effet, les personnages ont leurs propres intentions et compétences qu'il faudra combiner pour effectuer certaines actions. Tout ceci est rendu possible en permutant les protagonistes pour les déplacer librement dans le manoir. Mais attention de ne pas tomber nez à nez avec un des membres de la famille Edison, sinon vous vous retrouverez dans un sous-sol spécialement emménagé en prison. C'est un des facteurs qui aura une incidence sur la fin du jeu. Tout dépend avec combien de persos vous finirez l'aventure. Le fait que tout ceci change la donne des parties est obtenu grâce au moteur de jeu Scum pour Script Creation Utility for Maniac Mansion. Maniac Mansion est un jeu bien pensé qui a établi à lui tout seul les bases du genre point and click. Il laissa aussi de formidables souvenirs aux joueurs et joueuses de l'époque qui préféreront toujours l'original. Quant à ceux qui seraient tentés par cette aventure, on leur recommande la version Deluxe un peu plus facile à installer sur PC. Solomon's Key, ou Solomon's No Kagi, est un bon petit jeu de plateforme réflexion à tableau fixe développé et commercialisé par Tecmo en 1986 sur borne d'arcade. Il a été adapté sur différentes plateformes familiales, dont l'Atari ST en 1987. Vous contrôlez un gentil petit sorcier nommé Dana, ayant pour mission de retrouver la clé de Solomon pour restaurer la paix dans le monde envahi par les nombreux démons qui ont été accidentellement libérés. Le principe est de parcourir les 48 niveaux en trouvant dans chacune d'elles, et dans un temps imparti, la clé permettant d'ouvrir la porte menant à la pièce suivante. Celle-ci représente les constellations zodiacales, où chaque signe est divisé en 4 groupes. Dana peut courir, sauter, créer, détruire des blocs ou lancer des boules de feu pour se débarrasser des ennemis. Il est possible d'acquérir des objets permettant d'améliorer son pouvoir, d'avoir des vies supplémentaires, d'obtenir des points de bonus ou encore de débloquer des pièces cachées. Solomon's Key est un jeu très prenant, mais la difficulté augmente assez vite et certaines pièces demandent un bon sens de la logique. D'ailleurs, une suite fut réalisée peu de temps après le premier, et il ne serait pas surprenant de voir émerger de nos jours un jeu reposant sur le même principe. Ils ne sont pas nombreux les jeux vidéo basés sur le shonen manga du collège Foufoufou, alors quand il y en a un qui sort, on se sent obligé de l'essayer, surtout si l'on est un fan de la série animée. On ne sait pas grand chose de ce Simple Characters 2000 série volume 5 High School Kimengumi The Table Hockey, ça c'est le nom simplifié, édité par Bandai en 2001 sur PlayStation, si ce n'est qu'il met en scène les personnages les plus emblématiques de la série dans des matchs délirants de hockey sur table. Tout le monde connaît le principe de ce jeu, aussi connu sous le nom de Ice Air Hockey. Si vous fréquentiez les salles d'arcade dans les années 80-90, vous avez dû obligatoirement en voir quelques-unes. Ce sont des tables munies de minuscules petits trous où de l'air s'échappe, faisant ainsi glisser le palais en plastique. Le but est d'envoyer le palais dans la fente opposée pour marquer le plus de points possible. Sauf que là, vous incarnez un des membres de la bande des Joyeux Loufoques. Et il y a aussi pas mal de personnages débloquables, dont Lassie, le chien de Rei Ishido. Daima Jin wa kyou mo onaka o hirashiteita. Bentou wa nijigen me ni wa kage mo katachi mo nakunatteita. Après avoir choisi votre personnage, vous avez le droit à une petite conversation avec votre futur adversaire, histoire de planter le décor. Ready? L'aire de jeu est joliment décorée suivant les goûts et les affinités du concurrent en face de vous. Par exemple, pour Dan, qui aime la sensualité, verra sa table entourée de fleurs. Des bonus en forme de lettres colorées traversent l'aire du jeu. Pour les récupérer, il suffit de les toucher par l'intermédiaire du palais. Ajoutez à cela les attaques spéciales propres à chaque collégien. Pour encore plus de fun, vous pouvez faire des parties en double, un peu comme du tennis, contre la console ou avec des amis. Ce High School Kimengumi n'est pas aussi représentatif de l'anime que son homologue sorti sur Sega Mark III en 1986, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sur le hors-série 3 de Retrovision. Ici, on enchaîne plutôt les parties de Ice Hockey sans trop de fantaisie. À réserver aux grands amateurs du collège Foufoufou ou collectionneurs PlayStation. Rockman, plus connu sous le nom de Megaman en Occident, fait incontestablement partie des licences les plus connues et les plus compliquées à suivre depuis son apparition sur Famicom au Japon. Les conversions sur arcade sont bien plus simples à comprendre puisque Rockman 2 est la suite directe du 1, développé respectivement sur les systèmes CPS2 et CPS1 de Capcom. Autant le dire tout de suite, ces adaptations sur arcade ne ressemblent pas du tout avec ce que l'on a l'habitude de voir sur les consoles de Nintendo. Fini la plateforme d'action recherche, ici nous avons le droit à du versus fighting avec des combats à 1 contre 1 ou 2 contre 1 lors des parties à 2 joueurs, ce qui est bien plus logique pour de l'arcade. Vous avez le choix entre 4 célèbres personnages de la série, Bass, Protoman, Duo et Rockman lui-même. 3 modes de jeu vous sont proposés, trouver le docteur Willy, sauver Roll ou partir à la recherche des parties volées. Mais peu importe le choix que vous aurez fait, tout se décline en une série de 6 affrontements contre des robots plus ou moins coriaces pour finir avec un duel contre le docteur Willy. Les combats se livrent dans des arènes closes, au décor flashy et superbement détaillé. La maniabilité est bonne, mais les actions sont limitées avec 3 boutons d'action : attaque, saut et changement d'arme. Lorsque vous aurez vaincu un robot, il sera possible de récupérer son arme, tout comme dans la série classique des Megaman. Les attaques de base ne varient pas énormément selon le héros que vous aurez choisi. On se débrouille avec un dash, une attaque spéciale, un tir concentré et un petit striker viendra vous prêter main forte, comme par exemple Rush, le chien mécanique. Rockman 2 The Power Fighters n'a séduit ni les fans de la série, ni les amateurs de combat, sans doute à cause de ses 3 modes trop ressemblants. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un jeu d'arcade où le public des game centers japonais a des goûts différents par rapport aux joueurs sur console. Si vous êtes de ceux qui ont connu le film SOS Fantôme lors de sa sortie au cinéma en 1984, il vous est sûrement arrivé de vous déguiser en chasseur d'ectoplasme, soit en achetant Pif Gadget, soit en prenant l'aspirateur de votre grand-mère en guise de canon à protons. Je sais, je l'ai fait. Et il aura fallu attendre 1989 pour voir enfin arriver l'adaptation du film sur Master System. Il y eut une première version sur Atari 2600 en 1985, mais la ressemblance avec le film n'était pas trop flagrante. Ici par contre, on reconnaît bien tous les protagonistes. Cela va des chasseurs de fantômes avec leur uniforme, la Ghost Mobile blanche avec le logo, jusqu'à Bibendum Chamallow, figure emblématique de la trilogie. Je dis trilogie car il y a une suite qui est prévue pour 2011. Les parties se font en 4 étapes successives. Après s'être équipé convenablement, vous accédez à une carte de la ville et vous devez vous rendre aux immeubles clignotants afin d'éliminer à grands coups de fusil à proton toute forme d'activité paranormale. Au bout d'un certain temps, tout le monde se réunit dans le bâtiment Zul pour l'affrontement final avec Guzer, le démon sumérien. Mais avant d'arriver tout en haut, il faudra esquiver le gros bibindom et éclater les fantômes restants. Une seule musique vous accompagne tout au long de la mission. Il s'agit du fameux thème Ghostbusters avec quelques fausses notes au passage. On appréciera le karaoké sur l'écran titre avec les paroles pas toujours super compréhensibles pour les non-anglophones, interprétées par Ray Parker Jr. Cette adaptation sur Master System est plutôt bien réalisée, la palette de couleurs est bien exploitée pour des graphismes soignés et fidèles au film. Et croyez-moi, c'était vraiment très plaisant de pouvoir incarner les chasseurs d'SOS fantômes autrement qu'en se déguisant avec les copains. Deuxième partie du test d'Armful Park. Ce shooter humoristique sorti en 1997 sur PlayStation est tellement délirant qu'on voulait vous montrer quelques séquences vidéo et surtout les boss de fin. Vous pouvez retrouver la première partie de cette chronique sur l'épisode 5, saison 3 de Rétrovision pour mieux comprendre le comment du pourquoi de la chose. Ici, nous sommes dans les derniers niveaux et on sent bien que la difficulté est nettement plus relevée. Les décors sont toujours aussi extravagants. Mention spéciale pour ce vieux bateau inspiré des voyages de Gulliver. Mais Armful Park, ce n'est pas juste un shoot 'em up, car dans les options, vous pouvez sélectionner minigame et là, magie, trois petits jeux marrants apparaissent. Tank Battle, comme son nom l'indique, reprend un principe vieux comme le monde, la fameuse bataille de chars d'assaut. On peut retrouver son ancêtre sur la cartouche triple action de l'Intellivision et tout y est, même les ricochets. Punchball est une sorte de hockey sur table, mais en grandeur nature, un peu comme dans Windjammer sur Neo Geo. Le problème, c'est qu'on ne peut y jouer qu'à deux. Sky Circuit, le dernier, vous propose une course contre la montre à travers un couloir en vue de côté, se divisant en plusieurs embranchements. C'en est terminé pour ce sixième épisode. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous laissent des messages d'encouragement ou de sympathie sur YouTube ou Dailymotion. Mais juste avant de se quitter, place à la démo Amiga, interférence de l'excellent groupe Sanity. À bientôt sur Rétrovision.